Et oui, merci Anne. Et dans la grande table, deux parties, comme d'habitude, avec de la musique au milieu. Première partie, célébration de la petite reine à quelques dizaines d'heures de la fin du Tour de France. Deuxième partie, portrait de l'architecte Andrew Todd. Et la session jazz, ce sera Leila McCallum. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Anne Fouquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour. Après la polémique toujours ouverte sur le dispositif de sécurité déployé à Nice pour le 14 juillet, un quatrième conseil de sécurité et de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée. Le président Hollande s'exprimera ces prochaines minutes, une semaine après l'attentat. Son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, traverse une mauvaise passe politique. L'analyse de Stéphane Robert au début de ce journal. L'Union européenne s'inquiète pour l'état de droit en Turquie. Près de 60 000 personnes suspendues ou limogées depuis le coup d'état manqué de la semaine dernière. Nous verrons avec Cécile de Kervas-Doué si Bruxelles peut faire plus que de menacer. Aux États-Unis, Hillary Clinton riposte au discours musclé de Donald Trump la nuit dernière à l'occasion de l'investiture du candidat républicain à Cleveland. Les précisions à suivre d'Hélène Masquelier. Nous irons aussi à l'est de l'Ukraine où les ONG s'inquiètent de détentions arbitraires et d'actes de torture 2 ans après le début de la crise dans le Donbass. Enfin, l'affaire Bolloré France 2 rebondit après la rediffusion hier soir du magazine Complément d'enquête consacrée au patron du groupe industriel Vincent Bolloré, qui va saisir la justice. François Hollande s'exprimera dans les minutes qui viennent après avoir présidé un nouveau conseil de défense à l'Élysée, le quatrième depuis l'attentat de Nice qui a fait 84 morts il y a une semaine. Sur le plan judiciaire, cette nuit, les 5 suspects soupçonnés de complicité ont été mis en examen. Et sur le plan politique, la polémique sur le dispositif de sécurisation du 14 juillet n'est toujours pas retombée. Allumée par l'opposition, elle est même alimentée ce matin par le Parti communiste qui, par la voix de son porte-parole, se demande si Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont à la hauteur de ce débat sur la sécurité. Le ministre de l'Intérieur, épinglé par le journal Libération hier matin, a diligenté un audit de la police des polices hier pour faire descendre la pression. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Anne.
Alors comment fait-on pour sortir le ministre de l'Intérieur de ce problème politique ?
Un certain nombre de contrefeux ont d'ores et déjà été allumés pour faire face à ce qui semble être désormais devenu le problème Cazeneuve. Déjà, il y a le fait que l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, a été saisie pour mener une enquête sur le dispositif de sécurité déployé le soir du 14 juillet à Nice et qu'elle doit rendre ses conclusions dans le courant de la semaine prochaine. L'exécutif s'est donc déjà donné du temps pour voir venir, première étape, sortir de l'urgence médiatique. Ensuite, le préfet des Alpes-Maritimes a déjà commencé à endosser le rôle du fusible si ça devait aller plus loin. Il déclare assumer pleinement la mise en place du dispositif et ajoute que c'est sur la base des informations qu'il a transmises au ministère que Bernard Cazeneuve s'est exprimé. Bref, si besoin, il assumera, lui, un éventuel travestissement de la réalité s'il est avéré qu'il y en a eu un. Car on peut dire que Bernard Cazeneuve s'est un peu précipité en réagissant aux accusations du maire de Nice, Christian Estrosi, et du journal Libération qui ont parlé de mensonges. Ou disons plutôt qu'il s'est entêté en affirmant que la police nationale était très présente sur la promenade des Anglais. En réalité, avec 64 policiers nationaux, il semble bien qu'on peut parler d'un dispositif sous-dimensionné. Et puis, il a dit aussi que l'accès à la promenade était rendu impossible par des véhicules de police qui faisaient barrage. Là encore, il apparaît que c'est vraisemblablement contestable. Nous n'imaginons pas un mensonge délibéré de votre part, tant perd ce matin le journal Libération, mais reconnaissez quand même qu'il y a des problèmes de transmission d'informations. En réalité, ce qui s'est sans doute passé, c'est que personne n'a imaginé qu'il pouvait y avoir un attentat ce soir-là, de cette manière-là et à cet endroit-là. Pas plus les services de l'État que la ville de Nice, et personne ne veut en assumer aujourd'hui pleinement la responsabilité. Et puis ce n'est pas la première fois que Bernard Cazeneuve est mis en cause dans son action au ministère de l'Intérieur. On peut même dire que dans sa relation avec les médias, il est assez maladroit. On a pu le constater avec l'affaire Rémi Fraisse ou encore quand il a été critiqué dans sa gestion des manifestations contre la loi travail. Mais en tant que ministre, au sein du gouvernement, il est indispensable à François Hollande et il est impensable d'imaginer aujourd'hui une éventuelle démission.
Merci Stéphane Robert pour vos précisions. C'est une décision qui pourrait fragiliser la patronne du Fonds monétaire international. La Cour de cassation doit se prononcer cet après-midi sur le recours déposé par Christine Lagarde, renvoyé pour négligence dans l'affaire de l'arbitrage Tapie. Un premier recours a déjà été rejeté par le ministère public lors d'une audience début juillet. Si c'est de nouveau le cas aujourd'hui, Christine Lagarde sera jugée devant la Cour de justice de la République. Le candidat à la primaire de Les Républicains, Alain Juppé, est à Nouméa en Nouvelle-Calédonie jusqu'à dimanche. Déplacement stratégique pour continuer à marquer le pas sur Nicolas Sarkozy qui a recueilli 63% des voix dans l'archipel au second tour de l'élection présidentielle en 2012. 1500 places dans des centres d'hébergement et des gymnases ont été mobilisées en Île-de-France et en province pour accueillir les réfugiés évacués ce matin vers 6h30 dans un campement insalubre du nord de Paris entre les métros Jaurès et Colonel Fabien. Évacuation par bus après quelques heures avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. C'est la 26e évacuation de ce type en un an dans la capitale. Et Pierre Henry, le président de France Terre d'Asile, demande de nouveau à l'État l'implantation de centres d'hébergement de taille adaptée dans les grandes villes de France.
Nous nous trouvons devant un système absurde où le trottoir parisien sert de lieu de transit alors qu'il suffirait de prévenir et de prévenir par un système solidaire. Ce système solidaire, c'est l'installation de centres d'hébergement temporaire dans toutes les capitales régionales. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce système, il est tout à fait gérable. Il ne mettrait personne en tension. Et les migrants, ils sont connectés. Ils ont l'information en temps réel. S'ils savent que dans la France, aujourd'hui, le mode d'entrée pour l'hébergement, c'est Calais ou c'est Paris, ben, évidemment qu'ils ont envie d'hébergement. Personne n'a envie de vivre sur un trottoir. Et donc, ils viennent à Paris. Et c'est absurde. C'est un embouteillage qui est ahurissant.
Est-ce que vous vous sentez entendu par les politiques ?
Manifestement, ça fait un an que nous plaidons de cette manière. Je crois que nous sommes en tout cas compris, mais après, le politique a décidé, il ne décide pas. Le désordre de l'accueil, c'est le produit aussi d'une absence de décision politique. C'est au ministère de l'Intérieur, au ministère du Logement, que la question doit se régler.
Des propos recueillis par Willy Moreau. Un discours d'investiture martial pour Donald Trump la nuit dernière à l'occasion de la convention républicaine de Cleveland. L'Amérique d'abord a scandé le milliardaire de 70 ans qui s'est décrit comme le seul à avoir la poigne nécessaire pour terroriser les délinquants, je cite, et fermer la porte aux clandestins venus du Mexique. Un discours auquel la candidate démocrate Hillary Clinton a opposé une résistance en ligne, Hélène Masquelier.
Oui, la candidate démocrate qui répond sur Twitter « Non monsieur, vous n'êtes pas notre voix, vous voulez construire un mur, eh bien nous aussi, entre vous et le pouvoir. » Donald Trump a attaqué l'ex-première dame hier, critiquant son bilan à la tête de la diplomatie américaine, mais également plus en filigrane tout au long de son discours. Jean-Éric Branaa est maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste de la politique aux États-Unis.
Il nous a annoncé qu'il voulait rendre la sécurité à l'Amérique. En réalité, il a utilisé, comme il le fait à chaque fois, un stratagème. C'est une stratégie pour attaquer directement Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas actuellement de personne plus qualifiée aux États-Unis qu'elle pour parler de politique étrangère. Et toute la campagne de Donald Trump depuis le départ a été de contrer Hillary Clinton pour arriver à ce jour-là, qui a été de dire « Nous nous replions sur l'Amérique, je suis le candidat de l'intérieur », alors qu'Hillary Clinton est la candidate de l'extérieur.
Un discours donc tourné vers ceux qui souffrent. Donald Trump s'adresse même à la communauté LGBT hier, puis aux Noirs américains. « Il faut écouter tout le monde », dit-il, « je veux être la voix de ceux que l'on n'entend jamais ». Sauf que cette phrase, eh bien, on l'a déjà entendue quelque part. C'est le slogan utilisé par Hillary Clinton au début de sa campagne, lorsqu'elle parcourait les routes de l'Iowa à la rencontre des électeurs. Une belle façon donc de couper l'herbe sous le pied à sa rivale et une difficulté supplémentaire pour Hillary Clinton, qui, elle, débute sa convention des démocrates dans 3 jours à Philadelphie.
Les explications d'Hélène Masquelier. L'Union européenne appelle de nouveau la Turquie au respect de l'état de droit, quasiment une semaine après le coup d'état raté contre le président Erdogan et la purge qui s'ensuit. L'inquiétude monte chez la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui s'est encore exprimée hier soir aux côtés du commissaire à l'élargissement. 60 000 personnes, militaires, jugés, professeurs, ont été arrêtées, suspendues ou limogées en quelques jours. Et cette vaste purge est désormais facilitée par le régime de l'état d'urgence instauré mercredi soir. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
L'Union européenne demande donc à la Turquie de continuer à assurer un état de droit. Mais concrètement, y a-t-il des leviers d'action depuis Bruxelles pour faire pression sur le président turc ?
Mais en fait, entre l'Union européenne et la Turquie, on est un peu dans un jeu de dupes. Parce que ce sont surtout les Occidentaux qui ont besoin de la Turquie. L'OTAN et les États-Unis parce qu'ils utilisent, il faut le savoir, les bases militaires dans la lutte contre Daesh. Quand l'Union européenne, de son côté, est tenue en otage avec la question des réfugiés syriens. syrien. Depuis l'accord de mars 2016, Ankara a accepté de retenir des milliers de demandeurs d'asile à la frontière avec la Grèce. En échange, l'UE avait accepté de verser une enveloppe de 6 milliards d'euros, de lever les visas pour les Turcs voyageant dans l'UE et de reprendre des négociations sur l'adhésion d'Ankara à l'Union européenne. Négociations qui ont commencé, je vous le rappelle, depuis 1987. Mais au vu le tournant autoritaire que prend le contre-coup d'État du président Erdogan, avec notamment l'annonce du rétablissement possible de la peine de mort, les purges, l'état d'urgence qui suspend le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien l'Union européenne, par le biais de sa chef de la diplomatie, Federica Mogherini, a prévenu que les négociations d'adhésion seraient suspendues, sur la même ligne qu'Angela Merkel. La Commission européenne précise aussi que les visas pour les Turcs ne sont pas encore délivrés puisque tous les critères ne sont pas réunis et que les 6 milliards d'euros à verser d'ici 2018 ne le seront qu'à des projets et qu'à des ONG et certainement pas au gouvernement turc. Réaction de la Turquie, le vice-président de l'AKP, le parti au pouvoir, s'exprime ce matin dans Sputnik en fustigeant l'Union européenne qui se cacherait, dit-il, derrière la tentative de coup d'État. La Turquie a été délaissée, peut-on lire, les ennemis de notre pays deviennent les amis de l'Europe et il rappelle encore que 98% des Turcs demanderaient le rétablissement de la peine de mort. Dans ces conditions, tout laisse à penser que l'accord de mars 2016 pourrait voler en éclats. La Bulgarie a d'ores et déjà annoncé que Sofia se prépare à un afflux massif de réfugiés à sa frontière turque.
Analyse signée Cécile de Kervas-Doué. Amnesty International et Human Rights Watch s'inquiètent de plusieurs disparitions et détentions arbitraires dans l'est de l'Ukraine où s'affrontent toujours forces ukrainiennes et rebelles séparatistes proches de Moscou. Les deux ONG viennent de sortir un rapport conjoint sur la base d'une quarantaine de témoignages. La correspondance à Kiev de Sébastien Gobert.
En novembre 2014, Konstantin Bereskova-Nini a disparu. Ce civil non combattant, originaire de la partie de l'est de l'Ukraine sous contrôle de Kiev, a été torturé et poussé à signer des aveux le reconnaissant coupable de préparation d'actes terroristes. Une fois sa déclaration enregistrée, il a passé 15 mois dans une prison secrète à Kharkiv, grande ville de l'est de l'Ukraine. Amnesty International et Human Rights Watch l'ont retrouvé à sa libération en février 2016. En recoupant son histoire et des dizaines d'autres, ils ont pu retracer le fil d'une chaîne d'abus commises par les autorités ukrainiennes, fondées sur des accusations plus ou moins douteuses. Des abus qui ont brisé de nombreuses vies. Rachel Debert est la directrice adjointe de Human Rights Watch.
Une des personnalités interrogées pour ce rapport a indiqué que lors de sa détention secrète à Kharkiv, ses gardiens ont dit qu'il n'existait pas.
Lors de la présentation du rapport, elle met bien en avant que les abus et actes de torture sont commis des deux côtés de la ligne de front. Mais à la différence des territoires séparatistes, l'Ukraine est un état de droit qui ne peut contrevenir à ses obligations légales. Selon les autorités ukrainiennes, une enquête est en cours sur ces allégations. Une enquête de plus qui risque de s'éterniser et qui ne règle pour l'heure aucun des problèmes dénoncés par le rapport.
14 agences antidopage pressent le Comité Olympique International d'exclure la Russie des Jeux Olympiques de Rio. Le CIO se prononcera dimanche et ce midi, le Kremlin dit espérer que les sportifs n'ayant pas été entachés de soupçons puissent néanmoins participer. Depuis la publication du rapport McLaren et la révélation d'un dopage d'État généralisé à tous les sports entre 2011 et 2015 en Russie, l'agence mondiale antidopage réclame que toute la délégation russe et pas seulement les athlètes soient exclus des JO. L'industriel Vincent Bolloré assigne en justice France 2 et demande 50 millions d'euros de réparation après la rediffusion d'un reportage hier soir évoquant les activités de l'homme d'affaires. Il s'agit de l'émission Complément d'enquête passée pour la première fois sur les écrans en avril dernier. On peut y voir notamment deux adolescents témoignant de leurs conditions de travail dans une plantation du groupe en Afrique. Le groupe Bolloré estime que ce reportage est totalement à charge et porte l'affaire donc devant la justice. Abdelhakel Idrissi.
Le groupe Bolloré estime que le reportage constitue, je cite, une volonté avérée de lui nuire en le dénigrant gravement. Déjà suite à la première diffusion du reportage, Vincent Bolloré avait déclaré que les journalistes de l'émission avaient trafiqué le reportage et qu'il en avait la preuve. Il expliquait avoir fait constater par huissier de justice que le salarié présenté comme un adolescent de 14 ans en avait en fait 20 et qu'il aurait été payé par les journalistes pour mentir sur son âge. Des accusations graves que les membres de l'émission ont démenties. Ils ont défendu leur travail. Thomas Auro, le rédacteur en chef de l'émission, explique quand même détenir d'autres témoignages d'adolescents travaillant dans la plantation camerounaise du groupe Bolloré. Tristan Valex, de son côté, le réalisateur du reportage, explique que Bolloré est dans une partie de poker de grand bluff, fin de citation. Serait-ce alors dans le but de faire oublier le fond du reportage, car effectivement, l'émission n'est pas tendre avec Vincent Bolloré, loin de l'image d'un industriel souriant à la tête d'une entreprise familiale partie de rien. Le reportage revient notamment sur la manière dont le chef d'entreprise a pris le contrôle, parfois brutalement, de plusieurs groupes. Il y a aussi les accusations plus récentes de censure au sein de Canal+, dont il est l'actionnaire majoritaire. Au final, l'assignation de France 2 en justice pourrait donner à l'émission d'hier une très grande visibilité, alors que la rediffusion intervenait en plein été et en deuxième partie de soirée.
La météo de ce vendredi, 13 départements toujours placés en vigilance orange pour des orages, département qui se situe sur une ligne allant de la Haute-Saône à l'Ardèche. L'alerte a par contre été levée dans le sud-ouest du pays. Les températures iront de 21 degrés à Brest jusqu'à 32 à Ajaccio.